Bonsoir à tout le peuple vert. À force de plier, la SS a fini par rompre hier au Parc OL de Décines. Défaite 2-0 au terme d'un 113e derby passionnant. Encore une fois, les hommes de Christophe Galtier n'ont pas démérité, mais comme souvent dans les grands matchs, ils ont péché par manque de réalisme. La faute au manque de conditions physiques de certains cadres comme Robert Berić, peut-être. Nous verrons cela en seconde partie du débrief. En milieu d'émission, nous ouvrirons une page Europe pour parler de ce nouveau point arraché à la toute dernière seconde par Nolan Roux face à Anderlecht. C'était jeudi à Geoffroy Guichard. Les Verts peuvent-ils continuer encore longtemps à tirer sur la corde comme ça? Éric Cogné, le président de l'USFR, a son avis sur la question. Bonsoir, Éric Cogné.
Bonsoir à tous.
Nous reviendrons sur le parcours de votre club dans l'Expresso en milieu d'émission avant de faire un petit détour du côté de Montpellier dans un actu Ligue 1 très raffiné niveau petite phrase. Je vous laisse un petit peu le suspense. En attendant, direction le Parc OL de Décines. Vous êtes bien dans la mi-temps verte. On débrief le derby. Mais d'abord, l'actualité nous oblige à parler d'un sujet plus sérieux avant de démarrer ce débrief. Nous avons appris cet après-midi que les parts d'Adao Carvalho dans la société actionnaire de l'ASS Croissance Foot avaient été saisies par l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Pour rappel, Adao Carvalho est l'ancien associé de Roland Romeillet, l'ancien directeur général de l'ASS. Il détenait encore 22% de parts dans le club. Il les avait acquises en 2004 via une société luxembourgeoise. Et ce sont ces parts donc qui ont été saisies. Le parquet a ouvert une enquête préliminaire pour blanchiment de capitaux issus de fraude à l'URSSAF. Un commentaire, Eric Cogné.
Eh bien écoutez, une affaire de plus qui va salir l'image verte. Mais bon, bien évidemment, en l'état actuel des choses, l'information, pour ma part, est vraiment toute neuve. Donc je connais pas les tenants et les aboutissants, mais tant qu'on parle de fraude fiscale, ça veut dire que ben, il y a eu des détournements quelconques. Alors est-ce que c'est des charges qui n'ont pas été réglées? Va-t-on savoir? L'affaire nous en dira certainement plus dans les jours à venir.
Alors qu'on rassure tout de suite les supporters qui nous écoutent sur RVR, cette affaire ne va en rien troubler le fonctionnement du club. Cela dit, comment Roland Romeillet peut-il gérer cette situation?
Certainement, au niveau communication, je lui fais confiance pour gérer cette situation. Après, est-il partie prenante dans cette affaire? C'est ce qui sera difficile de définir aujourd'hui. Mais
Croissance Foot détient 44% des parts de l'ASS et Roland Romeillet en a 22%. Donc les 22% qui n'ont pas été saisis. Donc a priori, comme Roland Romeillet est en conflit avec Adao Carvalho, il est peu probable qu'il soit partie prenante dans cette affaire.
Oui, il y a des chances qu'en effet, il y ait des ambiguïtés, mais aussi des antériorités. Et bon, Roland Romeillet, de toute façon, a maintenant suffisamment d'expérience et, en la matière pour pouvoir se défendre ou éventuellement contre-attaquer.
C'est un entrepreneur, hein, Roland Romeillet. Donc, vu la gestion exemplaire qu'il applique à l'ASS, on pense qu'il l'applique également à ses entreprises. Une audience est prévu le 15 décembre pour déterminer l'issue de l'enquête pénale. Vous pensez que Roland Romeillet, donc l'ASS par ricochet, peut s'en sortir grandi?
Ah ben, nécessairement. Je pense que de toute façon, dans le milieu du football, c'est le sport le plus médiatisé en France. Je pense que nécessairement, on cherchera à trouver des solutions ou avoir des arguments ou bien polémiquer en la matière. Donc je pense que ça sera toujours négatif pour Roland Romeillet et son club, malheureusement, même si il n'a aucune charge contre lui, bien évidemment.
Alors, pour être tout à fait complet, nos confrères de France Bleu ont affirmé que les 22% des parts d'Adao Carvalho avaient été récupérées par l'État, ce qui a démenti formellement l'ASS dans un communiqué publié il y a 20 minutes sur son site. Bon, c'est un peu la confusion à ce niveau-là. En tout cas, il y a un communiqué, si vous voulez aller le lire, n'hésitez pas. On va reparler de foot à présent. Dans cette mi-temps verte, il est 20h05. L'Olympique Lyonnais a remporté le premier derby de l'histoire au Parc OL de Décines comme un symbole. Victoire 2-0. Comme ça paraît net et sans bavure. Mais les Lyonnais ont souffert dans ce match, Éric Cogné.
Oui, en effet, sur ce match, je dirais que, chose rare, l'ASS a pratiquement dominé son sujet avec un nombre d'occasions, je dirais, légèrement supérieur aux Lyonnais. Bon, manque de réussite, manque de qualité dans la finition, c'est pas nouveau à l'AS Saint-Etienne depuis le début de la saison, mais ce qui fait plaisir en tant que supporter de l'AS Saint-Etienne, c'est justement que ce club ait pu se créer autant d'occasions dans un stade magnifique, avec un public complètement à l'image OL. Donc je pense que les Stéphanois ont été costauds. Bon, ils n'ont pas démérité, mais un match, il faut être attentif pendant 90 minutes et ça n'a pas suffi. Et la maladresse a coûté cher.
Pajot et Monet Paquet ont créé de nombreuses brèches. Ce dernier, en jouant même très haut alors qu'il était latéral gauche au départ, finalement, ça n'est pas passé. Vincent Pajot est frustré. On va l'écouter, le milieu de terrain stéphanois.
On peut être frustré ce soir de repartir avec une défaite parce qu'on méritait mieux. Comme je dis, on était dans l'esprit, on avait à cœur de faire quelque chose ici. On ne s'est pas démoralisé, on a essayé d'aller de l'avant, on a joué sans le frein à main, on a donné tout ce qu'on pouvait, et puis c'est pas passé ce soir, mais en tout cas on doit sortir de ce match avec la tête haute. On est bien rentré en deuxième mi-temps avec le même état d'esprit, donc voilà, on a continué à aller de l'avant, et puis je pense qu'on aurait mérité au moins de revenir à un partout. Ça n'a pas été le cas, et puis le deuxième but nous plombe. Notre money time, comme on dit, on arrive à marquer en fin de match, et voilà, ça fait partie du jeu.
Comment expliquer que les Verts ne soient pas arrivés à faire la différence malgré leurs bonnes opportunités, alors qu'ils avaient réussi à renverser la tendance à Paris, par exemple ?
Eh bien, c'est une question très technique. Il y a de la volonté dans cette équipe, c'est certain. Après, est-ce que cette volonté est assujettie à une bonne préparation tactique et technique ? C'est là où le bas blesse, je pense. Les spécialistes évoqueront la chose. Je reste un éducateur, mais les spécialistes de la Ligue 1 pourront s'exprimer sur le sujet. Mais on voit qu'il manque quelque chose. Et lorsque les joueurs font le nécessaire pour passer le cap de la volonté, on s'aperçoit qu'après, y a la petite passe, la dernière passe, le pied, le poteau... Donc il y a des petites choses qui arrivent, donc ça veut dire qu'il y a peut-être un problème de fond psychologique dans cette équipe, va-t-on savoir.
On a manqué de lucidité et de justesse dans les temps forts que nous avons eus. Il y a eu un manque de réussite avec le poteau de Kevin Monet-Paquet. Je n'ai rien à reprocher à mes joueurs, c'est ce qu'a dit Christophe Galtier en conférence de presse. On le sent fataliste, l'entraîneur stéphanois.
Oui, fataliste, parce que ils font les efforts, qu'ils soient psychologiques ou techniques. On sent un collectif assez bien rodé, mais lorsqu'on est dans la zone de déséquilibre, dans la zone de finition, on ne retrouve plus tout à fait ces arguments que l'on retrouve depuis nos buts. La zone de finition, la zone de déséquilibre a l'air d'être encore pas tout à fait au point, mais bon, on peut espérer qu'au fil des matchs, nos attaquants trouveront l'issue, et on voit bien que les actions sont menées bien souvent par le milieu de terrain, voire les défenseurs. Donc on peut se poser des questions sur le contenu offensif. Un attaquant, deux attaquants, trois attaquants, on peut se poser la question. Si on fait le parallèle avec Paris, on voit bien qu'une solution 4-3-3 amène quand même du danger chez l'adversaire.
D'ailleurs, c'est un schéma très intéressant, mais il y a aussi la stat des deux défaites depuis le début de la saison concédées par l'AS Saint-Etienne. Cette défaite vient rompre une série de 10 matchs d'invincibilité pour l'ASS. Et pourtant, Christophe Galtier s'évertuait encore à parler de série. Or, quand on perd un match, qui plus est un derby, il n'y a plus de série. Qui dit match perdu dit série rompue. Pourquoi il parlait encore de série après le match ?
Je pense qu'il ne veut pas démoraliser son groupe. Je pense qu'au regard des médias, il doit rester solidaire, bien évidemment. En interne, le discours est peut-être tout autre. Il faudra lui poser la question. C'est vrai que on le voit plein d'attention, on souhaite des solutions offensives. Hier, on peut dire qu'on a vu des situations favorables, plutôt très favorables, face à un adversaire renommé. Ça ne passe pas. Et quand la défense craque à un moment donné, on a l'impression que le match est plié.
Un mot sur la défense, justement. Valbuena et Fekir ont chacun à leur manière fait souffrir l'arrière-garde stéphanoise, qui était encore très remaniée hier. Pour la première fois, peut-on dire que ce qu'on peut appeler les faux défenseurs stéphanois, comme Selnaes par exemple, ont atteint leurs limites dans ce derby ?
On a remarqué quand même que la défense stéphanoise défendait assez bas. Donc là, il est clair que la technique, le positionnement est moins utile. Il faut des combattants, il faut des joueurs sur l'homme. On avait des adversaires assez vifs, de petite taille, et qui pénétraient notre surface de réparation, justement au risque de tomber dans cette surface de réparation pour la sentence, je dirais, du pénalty. Je crois qu'on devrait défendre un petit peu plus haut pour justement essayer de les sortir de cette zone dangereuse. Mais bon, la vivacité, la qualité technique des attaquants lyonnais est difficile à contrecarrer quand même.
Défendre un peu plus haut, c'est un peu la réflexion qui revient souvent avec la SS, et même déjà l'année dernière. Mais quand on voit la taille des défenseurs stéphanois, est-ce que c'est raisonnable ?
Je pense que lorsqu'on décide de mettre un joueur comme Monet Paquet, qui a de la vitesse, qui a des capacités d'appui intéressantes, je pense que justement c'est pour pouvoir contrecarrer des adversaires de même qualité. Donc le choix peut paraître saugrenu au premier abord, mais me paraît très intéressant à la réflexion, parce qu'on peut mener un combat loyal avec deux adversaires de qualité identique. Après, bien sûr, il y a l'aspect psychologique de défendre par rapport à un attaquant, mais aujourd'hui, dans le football, tout le monde défend, tout le monde attaque. Voilà, donc je pense qu'il y avait une idée intéressante à travers ce positionnement. Est-ce que c'est les blessures qu'on fait ce schéma tactique ? Est-ce qu'il y avait vraiment la volonté d'ouvrir et de changer la tactique défensive ? J'étais assez intéressé par cet essai. Voilà, reste à voir s'il se positionnait comme une solution de dernière minute ou est-ce qu'elle était mûrement réfléchie. Et moi, je pense que c'est plutôt la deuxième solution.
Ouais, je pense que c'était mûrement réfléchi de la part de Christophe Galtier. On peut quand même voir que ça n'a pas bien fonctionné puisque Nabil Fekir a sorti le grand jeu. Il offre une passe décisive pour Sarri Darder, son milieu de terrain, en fin de première période. Il a fait preuve d'une extrême justesse technique, Nabil Fekir. 95% de passes réussies, manifestement, depuis son arthroscopie au genou il y a un mois. Nabil Fekir est métamorphosé, il va beaucoup mieux. Lyon doit-il sa victoire dans ce derby à ses individualités ?
Les éclairs de Fekir dans les 30 derniers mètres marquent les esprits, c'est évident. Mais on s'aperçoit qu'il y a des joueurs autour qui profitent de cet élan. Darder, on est un exemple concret, Valbuena, c'est tous les gens qui ont une justesse dans le dernier geste, dans le dernier dribble, qui est, à mon avis, très très intéressante. Donc, Fekir donne la voix, tente beaucoup de choses, même s'il y a du déchet, ça reste détonnant à chaque fois, hein, c'est très clair.
Le 5-3-2 de Bruno Genesio, est-ce que c'est le bon système pour cette équipe lyonnaise ?
Je pense que oui, elle a des fois des ratés, hein. On l'a vu il n'y a pas si longtemps, mais en effet, c'est du jeu offensif, c'est ce que réclame le public, ce que réclament les supporters, et c'est ce qui met la difficulté aux défenses adverses. Donc je pense que c'est un bon choix. Je suis pour le spectacle, je suis pour les buts, et voir des joueurs tenter des choses, déséquilibrer des défenses par quelques gestes, quelques faux semblant, je trouve ça très très intéressant, oui.
On aurait pu mener 5-0, a soufflé le président Lage chez nos confrères de RMC. Il a fait référence ici aux multiples occasions lyonnaises repoussées par Ruffier, notamment celle de Tolisso. Est-ce que Jean-Michel Aulas n'exagère pas un peu trop ?
Je pense que c'était un match un peu ping-pong, c'est-à-dire qu'on voyait des équipes qui étaient capables de marquer, de redoubler des efforts pour surprendre l'adversaire. Et je dois bien avouer que d'un côté comme de l'autre. Alors c'est sûr, si on dit qu'une équipe a toute la réussite possible et que l'autre n'en a pas du tout, c'est sûr que ça peut faire 5-0. Mais sur un match de 90 minutes, on a bien vu Lyon en difficulté sur des pertes de balles au milieu de terrain, ce qui est rare dans cette équipe. Et Saint-Etienne était dangereux lorsqu'il a récupéré le ballon très haut parce qu'ils sont vite projetés. Je pense que c'était intéressant.
Il y a le but de Darder sur cette passe lumineuse de Nabil Fekir. Et cette accélération aussi, il faut bien le dire. Mmh. Mais si Vincent Pajot ouvre le score, c'est plus la même.
Oui. Un match, c'est un match avec des aléas, des satisfactions, et c'est très difficile à gérer un match de bout en bout face à des équipes qui veulent faire la différence. La passe de Fekir est-elle voulue au deuxième poteau de cette façon? Moi, je suis pas convaincu. Mais
d'autant qu'il y a des paramètres à prendre en compte, c'est que Malcuit n'est pas très bien positionné, Ruffy est lobé.
Voilà, c'est ça. Il y a quand même, entre la tête de Darder et la ligne de but, on a quand même trois défenseurs qui cherchent à prendre le ballon. Donc c'est vrai que bon, il y avait trois parades. Bon, elles n'ont pas fonctionné parce que c'est vrai que c'était dans le dos, c'était au sol, c'était en déséquilibre. Bravo, beau but, mais bon, je ne suis pas sûr que sur 10 centres de cette sorte, il y ait 10 buts. Je ne pense pas, statistiquement.
D'ailleurs, Bruno Genesio était un peu plus mesuré que son président en conférence de presse. Ce fut un match serré avec beaucoup de duels. On n'était pas rassurés à 1-0, mais le deuxième but nous a libérés. Les Verts ne se sont-ils pas fait trop endormir au final?
Non, c'est vrai qu'on a pour habitude de voir sur des derbies à l'OL avec une possession de balle, bien sûr, majoritaire de l'Olympique Lyonnais. Je ne pense pas que statistiquement, c'était le cas hier. Genesio me semble un éducateur, un coach très lucide. On le voit dans ses propos, il a vraiment les propos justes. Sans exagération pour son équipe ou pour son adversaire. Je pense que lui a la bonne mesure du discours, c'est très clair.
Un homme aurait pu faire basculer le match côté stéphanois, c'est Robert Berić, mais le Slovène s'est blessé après 45 minutes de jeu. Une rechute qui pose question. Alors qu'il revenait tout juste d'un petit pépin derrière la fesse, Robert Berić s'est à nouveau blessé hier au Parc OL dans un derby. Qui plus est, ce genre de match manifestement décide de lui porter la poisse au Slovène. Dans les colonnes du Progrès ce lundi, Christophe Galtier se veut pourtant rassurant. C'est une lourdeur, une contracture au niveau de la cuisse, dit-il. Mine de rien, a-t-il commis une erreur en titularisant son grand attaquant slovène, Eric Cogné?
À mon sens, non, puisque Berić a des statistiques qui parlent pour lui. C'est peut-être pas très esthétique, mais c'est efficace. Et en l'état actuel des choses, vu le nombre de buts marqués par l'AS Saint-Étienne, je pense qu'il faut privilégier l'efficacité à la qualité. Voilà. Après, bon, ben, il y a Nolan Roux qui est là. Avec lui ou en remplacement de Berić, c'est là où on peut se poser des questions. On les a vus contre Lille jouer côte à côte. J'étais présent dans les tribunes. J'ai trouvé ça intéressant parce qu'ils n'ont pas du tout la même façon de se déplacer. Berić est plutôt un joueur d'appui, dos au but. Et Nolan Roux est plutôt un joueur de profondeur, de course transversale. Pourquoi pas renouveler cet essai avec deux attaquants de pointe.
Et justement, en plus, à chaque fois, et on le dit à longueur de mi-temps verte, que Nolan Roux et Robert Berić, à chaque fois qu'ils jouent ensemble, ça marche.
Eh bien, oui, le match de Lille est là pour le prouver, même si c'était un autre match avec d'autres considérations. Mais pourquoi pas. Alors, c'est vrai qu'avec la multiplication des matchs, coupe, championnat, est-ce qu'on doit préserver? Parce que si les deux joueurs que l'on parle se blessent ou sont en méforme, ça pourrait être vraiment très très pénalisant pour l'équipe. Galtier a certainement sa façon de penser sur le sujet. Nous, pour les spectacles offensifs, on aimerait bien voir les deux attaquants stéphanois côte à côte.
Dans un derby, il faut aligner des joueurs qui sont à 200% de leurs moyens physiques. Or, le Slovène ne l'était pas vraiment, c'est le moins qu'on puisse dire. Il ne s'est créé aucune occasion d'ailleurs. Sur les 15 ballons qu'il a touchés, il en a perdu la moitié, 7. Berić est passé complètement au travers de son match.
Oui, c'est pas facile. Dans une défense lyonnaise très bien organisée, une équipe stéphanoise qui joue le contre, c'est pas facile pour l'attaquant de pointe. Je répète bien, c'est un joueur isolé. On voit bien.
Pourtant, on a vu Arnaud Nordin à côté de lui qui se démenait, qui faisait pas un excellent match, mais qui, pour un jeune de son âge, jouer pour la première fois au Parc OL un premier derby, il y allait, le garçon. Et on a vu Kevin Monet-Paquet qui essayait aussi d'apporter le surnombre, malheureusement.
Oui, il est clair que Berich, sa force, c'est certainement pas sa mobilité et la qualité de ses appuis. Mais bon, c'est un joueur qui peut marquer dans toutes les positions et qui se trouve là où il le faut, au moment où il le faut. Alors on parle souvent de ces buteurs qui sont pas très esthétiques, mais qui sont efficaces. Alors des joueurs de couloir qui sont qui ont donné satisfaction, qui sont mobiles, qui arrivent à déséquilibrer l'adversaire, c'est bien, mais bon, il faut poser le ballon au bon endroit, et c'est pas toujours facile au milieu d'une défense regroupée dans la surface de réparation.
Et en plus, malheureusement pour lui, j'ai envie de dire, il commet une petite erreur, celle d'être mal positionné sur la trajectoire d'une frappe de Pajot qui doit 100 fois aller au fond des filets de Lopez.
Oui, c'est clair, il tourne le dos à la situation de jeu. Après, il reçoit le ballon sans même imaginer qu'un partenaire peut se trouver derrière. Donc, on pourrait considérer que la prise d'information dans son environnement est pas bonne. Mais bon, vous savez, ça va très vite.
Ça va très vite.
Donc, il faut pas l'accabler.
Non, enfin, c'est sûr.
Il est dans son registre. Il est dans son registre. Il faut que l'équipe l'utilise dans ce registre. Après, moi je pense qu'un Nolan Roux à ses côtés serait pour moi très intéressant.
Et en plus, s'il était en confiance, Nolan Roux, il aurait pu être titulaire parce qu'il venait de marquer 2 buts en 2 matchs contre Lille et Anderlecht. C'est un peu regrettable de le voir débuter sur le banc. Et en plus, quand il est rentré, il n'a pas été plus efficace que le Slovène. 11 ballons joués et un déchet technique affolant, 57% de passes réussies.
Oui, quand on le voit évoluer sur le terrain, Nolan Roux... On a l'impression qu'il y a un blocage psychologique avec le groupe ou avec la tactique qui est donnée au groupe. On le sent pas mobilisé et pourtant quand il marque un but, on le sent vraiment investi. Donc c'est bizarre, une attitude sans ballon et avec ballon qui est différente. Pourquoi ? Je ne saurais l'expliquer en l'état actuel des choses, mais c'est vrai que des attaquants, ils ont besoin de prendre de la confiance et du plaisir pour pouvoir s'exprimer, tenter des choses. Et en Ligue 1, il faut tenter des choses si on veut marquer des buts.
Tenter des choses, c'est ce qu'ont fait Monet-Paquet et Pajot. Pajot a été le plus dangereux côté stéphanois avec 3 frappes, dont 2 cadrées. Mais justement, c'est là où le bas blesse peut-être. Vincent Pajot est à la base un milieu récupérateur, relayeur. Un peu comme Fabien Lemoine qui a une très grosse activité d'ailleurs, il frappe assez régulièrement au but. Et j'ai envie de poser la même question qu'il y a quelques mois de cela dans la mi-temps verte. Ce n'est pas trop inquiétant de voir un milieu de terrain comme ça tenter sa chance aussi souvent ?
Écoutez, personnellement, ça ne me gêne pas, ça ne me perturbe pas. Pourquoi ? Parce que ce sont des joueurs qui créent des brèches, qui vont s'infiltrer dans des espaces libres, qui ont la capacité athlétique de redoubler des efforts offensifs et défensifs. Et si vous voulez, c'est des joueurs qui n'ont pas forcément de marquage adverse, proprement dit. Donc, ce sont des électrons libres. Et ces électrons libres, s'ils sont capables de récupérer et qu'ils sont capables de marquer, je pense que c'est très bien. On se souvient, il n'y a pas si longtemps, Matuidi, très bon récupérateur, qui aujourd'hui, à Paris, est buteur. Donc, je pense que c'est un peu la tactique du football français aujourd'hui. C'est-à-dire que les électrons libres arrivent à se mettre en position. Et s'ils sont adroits ou s'ils ont un peu d'anticipation, ils arrivent à se trouver au bon endroit. Mais ça me semble intéressant, au contraire, très intéressant. Fixer peut-être les défenses sur des attaquants comme Berich, Nolan Roux, pour avoir ensuite des joueurs qui puissent se mettre en position de frapper au bord des 16,50 m. C'est peut-être pas forcément une mauvaise idée.
C'est Pierre Ménès qui a été plutôt intéressé, on va dire, par la prestation stéphanoise, mais comme il le dit sur son blog, cette équipe manque cruellement de réalisme, c'est un problème récurrent. Après, il faut reconnaître que perdre Amouma et Berich en une période, ça n'aide pas. Fin de citation.
On peut rejoindre sa réflexion, Pierre Ménès, parce que on l'aime ou on l'aime pas, mais je pense qu'il a quand même des analyses qui sont pertinentes. Et c'est vrai que lorsqu'on perd 2 joueurs à vocation offensive, c'est difficile. Lorsqu'on voit le nombre d'occasions, Alors que d'habitude, les derbies sont des fois beaucoup plus bridés que cela défensivement. Là, ça fait plaisir parce qu'on a eu un match débridé et c'est très bon pour le spectacle. Et un derby reste avant tout un spectacle.
Alors, il y a un fait de jeu aussi sur lequel je vais vous interpeller. C'est peu avant le but de Darder, une minute avant, il y a Morel qui écope d'un avertissement, on va dire, bien mérité, jaune fluo, dirons-nous. Christophe Galtier, lui, carrément, il a vu rouge hein, sur son banc. Si Clément Turpin avait été un petit peu plus sévère envers le Réunionnais, ce manque de réalisme offensif serait-il devenu un faux problème, au final ?
Eh bien, c'est vrai qu'on voit de plus en plus des décisions arbitrales suite à des cartons jaunes, voire rouges, changer la physionomie d'un match, voire la rendre totalement unilatérale. Alors, est-ce qu'il faut souhaiter ce genre de choses pour qu'on débride un match? Je suis pas de cet avis. Mais c'est vrai que sur le contact, je dirais c'était sur Tanane, si ma mémoire est bonne.
Tout à fait.
On voit qu'il y a faute. Par chance, le joueur stéphanois n'a pas la jambe bloquée parce que je pense... Si l'appui est au sol, à ce moment-là, Tanane peut se faire un tibia péroné tranquillement. D'ailleurs, lorsqu'on le remarque au ralenti, on se demande comment ça ne s'est pas fait comme ça. Mais comme je dis souvent, ça va tellement vite et les arbitres, suivant leur positionnement, ne voient pas forcément, je dirais, la justesse du tacle ou bien de la position du corps qui fait opposition et qui peut mettre à mal... l'intégrité du joueur offensif.
Et c'est bien de le rappeler que Tanane est passé tout près d'une fracture tibia péronée parce que beaucoup de joueurs dans sa situation n'auraient pas posé le pied au sol. Et on connaît la suite pour beaucoup d'entre eux. J'ai trouvé l'équipe joueuse, voire dangereuse, mais dans un derby, il faut sanctionner, dixit Christophe Galtier dans les colonnes du Progrès. Aujourd'hui, cette équipe-là, cette équipe de l'AS Saint-Etienne-là, ne sait pas sanctionner son adversaire. Les Verts ont-ils peur de tuer l'autre ?
Alors très sincèrement, je pense pas, puisque les joueurs professionnels sont préparés, à mon sens, pour gagner des matchs, l'emporter, quelles que soient les situations, quel que soit le contexte. Donc je pense qu'ils sont conditionnés en la matière, les Stéphanois comme les Lyonnais, je fais aucun doute là-dessus. Après, sanctionner, c'est un mot qui est fort, parce que une erreur peut être récupérée par un partenaire et vous avez un dernier rempart qui est le gardien de but. Bon, on a vu quand même les gardiens de but intervenir hier soir, donc ça veut dire que les premiers remparts n'avaient pas été efficaces. Bon, écoutez, c'est sûr, dans le football, il y a peut-être 10 actions de but dans les meilleurs matchs offensifs. On voit un ou deux buts, voire trois buts. C'est déjà des ratios qui sont intéressants. Dès qu'on descend dans le football amateur, et je sais ce que c'est, vous avez des pourcentages qui dégringolent. Donc, on voit quand même dans le football professionnel qu'il y a des pourcentages malgré tout intéressants de concrétisation d'actions de but. Alors, au gré du supporter, pas suffisamment. Mais peut-être là, on peut s'interroger sur comment favoriser le jeu offensif.
Et on peut s'interroger aussi sur l'état physique de certains joueurs. Alors, on a parlé des blessures la semaine dernière, mais quand on voit, par exemple, un joueur comme Romain Mouma, qui normalement est censé être l'un des piliers de cette équipe, il a été même considéré comme un capitaine potentiel, puisqu'il a porté le brassard contre Anderlecht. Là, il s'est encore blessé, Romain Mouma. Il souffre d'un claquage qui le tiendra éloigné des terrains pour 6 semaines. Il a 29 ans, Romain Mouma, il aura 30 ans au printemps prochain. Jamais il n'a réussi vraiment à enchaîner à cause de ses problèmes physiques, justement. Ça ne vous inquiète pas ?
Ah bah bien sûr, c'est inquiétant quand on voit la saison dernière qu'il a fait et le nombre de buts qu'il a marqué et qu'il était une priorité, je pense, offensive pour Galtier et qu'on le voit en dessous et très largement en dessous de ses statistiques. On peut être inquiet pour l'AS et les situations offensives de l'AS Saint-Etienne. C'est évident. Après, il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. L'aspect moral, l'aspect santé. Est-ce qu'il joue en effet blessé? Parce qu'on n'a pas bien le choix. On cherche des joueurs percutants. Ça manque. Amouma est percutant et efficace, ou du moins l'était. Est-ce que la blessure le conditionne pour justement ne plus être en capacité, certainement. Là, le staff médical doit apporter des éléments à Christophe Galtier, et Galtier jugé si Amouma à 50% peut être encore décisif.
Amouma était capitaine contre Anderlecht, je le disais, une récompense pour ses 4 années d'investissement à l'AS Saint-Etienne, mais pas vraiment un porte-bonheur pour ses partenaires qui, une nouvelle fois, ont dû attendre 94 minutes, pas une de plus, pas une de moins, pour trouver la lumière.
Oui, c'est fini, la lumière est venue
de Nolan Roux, et non pas de Laurent Blanc. À la 94e minute, au bout de la nuit, l'ancien Lillois est venu soulager tous les spectateurs du stade Geoffroy Guichard. Jeudi, ils étaient tous comme ça. Il a fallu une grosse erreur quand même du gardien belge David Roff pour voir cette égalisation. Est-ce la blague du siècle, ce match nul face à Anderlecht?
Eh bien écoutez, on peut dire qu'elle donne encore beaucoup d'espoir à l'AS Saint-Etienne. Donc on va considérer que le peuple vert est heureux de ce but, on va pas dire casquette, parce que bon, il a été quand même mis dans les buts par un Stéphanois. Mais en effet, c'est inquiétant de s'en remettre à des arrêts de jeu, avec des faits de jeu, je dirais, un petit peu anodins. Donc c'est inquiétant. Mais le peuple vert peut y croire encore, et j'espère que les joueurs comprendront qu'il faut faire mieux et aller plus loin dans leur démarche.
Les Belges étaient furieux après la partie, notamment après le public. C'est l'ancien défenseur de Toulouse, Uros Spajic, qui a allumé la mèche, qui a pris la défense de son gardien de manière peu sportive, il faut bien le dire. L'explication de la bourde vient en grande partie du bruit dans le stade. C'est ça qui nous a fait peut-être perdre 2 points. Fin de citation. Pourquoi met-il en cause les supporters, Uros Spajic?
Écoutez, on essaye toujours de déresponsabiliser un peu le joueur qui a fait la faute. Et je pense qu'au niveau communication, c'est une bonne chose. Même si en interne, il y aura une analyse technique du geste. Après, ben, il est toujours intéressant au niveau médiatique de détourner un peu l'attention, parce qu'on sait que ça peut monter en épingle et que ça peut devenir des situations un peu ridicules. Et bon, ce gardien de but que je ne connais pas a certainement d'énormes qualités, et le rôle des dirigeants, c'est de les protéger.
On sait que le Chaudron est une caution morale, en quelque sorte un 12e homme pour l'AS Saint-Etienne, mais les supporters ne sont pas non plus sur la pelouse, ils ne sont pas acteurs du match. C'est scandaleux quand même, cette sortie, dans la manière, dans les mots d'Uros Spajic.
Oui, ça peut être surprenant de la part d'un sportif qui a connu certainement des heures de gloire et qui a connu ce genre de match. Oui, très surprenant.
Et en plus, il a connu des derbies avec Toulouse contre Bordeaux, donc c'est un peu bizarre.
Surprenant de parler d'une telle excuse. Après, ben écoutez, c'est que le stade résonne, que le public a fait son travail, et si ça a joué, ben tant mieux pour les Stéphanois.
Il a ajouté que sur l'action, Roff avait prévenu qu'il sortait, comme disent souvent les gardiens, mais Bram Nuitink lui a dit qu'il était seul et préférait se charger de prendre le ballon. Qui a tort, qui a raison dans l'affaire? Est-ce que c'est Roff, est-ce que c'est Nuitink?
Oui, très difficile à mon avis d'analyser si c'est le gardien qui demande à la voir. Est-ce que c'est le défenseur qui... Là aussi, ça va malheureusement très vite, mais le moment de décision, s'il n'est pas anticipé, peut poser aussi un désaccord entre les deux joueurs. Et peut-être que justement, les décisions que l'un et l'autre ont prises a été trop tardives et a posé un préjudice au second. Très difficile, quand on n'est pas sur la pelouse ou à proximité, c'est très difficile d'analyser cette situation.
Si l'on accepte ce micro-incident, parce que ça reste un micro-incident, on lui donne un peu de poids dans cette émission, mais c'est un peu normal, c'est la radio qui fait ça. Les Belges ont parfaitement négocié cette partie, ce n'était pas facile, d'autant qu'ils ont été étriés le week-end dernier par la lanterne rouge de leur championnat. Ils ont obligé les Verts à défendre à domicile. Comment la SS peut-elle se montrer plus ambitieuse dans des matchs comme ça?
Ce qui est surprenant, c'est qu'on a des analystes de vidéo, on a tout un staff qui est chargé de regarder les points forts, les points faibles des adversaires, et que cette analyse doit être faite et que l'équipe doit agir ou réagir en conséquence. très sincèrement sur ce match-là. C'est vrai que la SS n'a pas été en capacité d'agir, réagir, si on accepte le but et encore. C'est vrai que là, on peut s'inquiéter de l'attitude de notre équipe.
Ce n'est pas la première fois que la SS se fait peur ainsi, en étant menée jusqu'à la toute fin du temps additionnel. On est en Coupe d'Europe. Soyons clairs, les Verts ne remporteront pas l'Europa League cette saison et surtout pas en jouant comme ça. Mais surtout, la SS peut-elle avancer encore longtemps en se faisant peur comme ça à chaque rencontre ?
Je pense pas. On ressent bien, le public, le staff, les joueurs ressentent bien qu'il y a des défauts qui sont à corriger, mais sont-ils corrigibles ? Pas sûr. Il est très clair que ça ne suffira pas pour gravir des échelons. C'est pas possible. On ne peut pas se satisfaire de si peu pour envisager mieux avec des gens qui, enfin, des joueurs qui s'entraînent tous les jours, qui enchaînent des situations de jeu et qui ne sont pas capables de reproduire en match avec un adversaire qui leur pose certainement des problèmes. Là, on voit la limite, on voit la limite de notre équipe, et donc c'est vrai que le supporter aimerait beaucoup mieux, mais l'éducateur se rend compte qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à fournir, et on ne sait pas comment aboutir. Et je pense que Galtier est aussi dans cette situation. Je ne suis pas sûr qu'il ait la solution.
J'éprouve beaucoup de joie, affirmait Christophe Galtier après la rencontre, et malheureusement pour lui, il a été exclu en fin de partie, pour une joie un peu trop communicative. Il est rentré sur le terrain alors que l'arbitre n'avait pas sifflé. C'est un peu symptomatique de l'état d'esprit, j'ai envie de dire, de l'AS Saint-Etienne en ce moment.
Bien, oui, oui.
Un besoin de se rassurer.
Oui, je pense que Galtier doit passer pendant les matchs par des situations très difficiles. Et bien évidemment, lorsqu'il y a un fait de jeu marquant, favorable pour son équipe, on expose. Je pense qu'on... On ne peut qu'exploser, surtout en Coupe d'Europe, avec les impératifs peut-être financiers qui sont en jeu. C'est un soulagement. Il y a des impératifs. Vous le savez, pour avoir des bons joueurs, pour pouvoir avoir une capacité de recrutement supérieure, ça passe par des bons résultats et ça passe nécessairement par briller sur certaines compétitions.
Un mot sur la prestation de Jesse Moulin qui a encore une fois parfaitement suppléé Stéphane Ruffier, même s'il a été pris à contre-pied sur le pénalty.
Bah écoutez, de toute façon, c'est un gardien qui a de nombreuses années de formation de haut niveau. Comment faire autrement que d'avoir des bons gardiens ? Bah, ça veut dire qu'il a la capacité athlétique, la capacité mentale pour rester, je dirais, mobilisé derrière Ruffier. En étant numéro 2, c'est pas facile, parce que je pense que ça doit mettre une pression supplémentaire, parce que quand vous sortez sur une compétition, ça vous laisse peu de chances de vous rattraper si vous passez au travers. Mais bon, Jesse Moulin est un joueur expérimenté, qui commence à avoir, comme on dit dans le jargon, de la bouteille, et je pense qu'il connaît très très bien ses partenaires et le club, et je pense que ça lui facilite la tâche d'évoluer dans son club de formation.
Il est 20h41, tout de suite l'expresso d'Éric Cognier, président du LUS FEUR. Éric Cognier, depuis quand êtes-vous président de l'US FEUR ?
Eh bien écoutez, j'entame ma troisième saison dans ce rôle de président, avec une équipe dirigeante formée prioritairement d'anciens joueurs des années 90 qui faisaient les beaux jours de l'US FEUR.
Cette année, votre club évolue en division d'honneur régionale dans la poule C, la même que le Rouennais Foot 42 d'ailleurs. Le championnat vient de démarrer, le Rouennais Foot s'est bien ressaisi. Vous êtes très bien parti également, 2 victoires à 0, 0 but encaissé. L'objectif, c'est la montée ?
Écoutez, l'année dernière, puisque nous sommes descendus de division DH, malheureusement, suite à la descente de Aix-les-Bains de CFA2, on avait misé pas mal d'objectifs l'année dernière. On était assez ambitieux pour au moins rester en DH. Et on s'est aperçu qu'au fil des mois, que c'était un niveau qui était difficile à maintenir. Bon, on est descendu. Aujourd'hui, parler de remontée, pas du tout. On est plutôt dans le fait de dire maintenons-nous à ce niveau qui reste honorable en DHR. Si l'opportunité se présente en courte saison, bien évidemment qu'on ne se gênera pas pour se positionner aux avant-postes. Mais aujourd'hui, après 3 journées, il est bien trop tôt de s'exprimer, sachant que nos résultats sont loin d'être mirobolants. Un match nul 0-0 contre la réserve de Villefranche, une victoire 2-0 à l'UGA Décines qui risque d'être dans la difficulté, je pense, durant la saison. Et
une victoire à Caluire 1-0.
Voilà, contre Caluire. Bon, c'est très bon, hein. On va pas se gêner de dire que la victoire est bonne, mais on sait que la saison va être longue et il vaut mieux avoir des bons résultats en ayant une qualité de jeu médiocre, parce que quand la qualité de jeu sera là, on aura peut-être plus d'ambition et plus de volonté d'aller chercher éventuellement cette première place.
En Coupe de France, en revanche, l'aventure s'est brutalement terminée le 24 septembre dernier. Vous avez été écrasé par Limonest 6-1 à domicile. Que s'est-il passé ?
Mais écoutez, le tirage ne nous était pas très favorable, parce qu'il faut savoir que pour passer des tours en Coupe de France, il faut aussi avoir la chance d'avoir des bons tirages. Ça n'a pas été notre cas, puisqu'on a pris un pensionnaire de CFA2 qu'on connaissait bien l'année dernière, puisqu'on les avait dans la poule. Nous, on a eu, je dirais, un effectif amoindri. Eux ont eu des renforts. Aujourd'hui, 2 niveaux d'écart. Très sincèrement, les 2 niveaux d'écart existaient, notamment sur le réalisme et sur la notion de finition. Parce que dans le jeu, les joueurs de l'USF n'ont pas à démériter, loin de là, puisque les conservations de ballons étaient tout autres. Mais c'est vrai que le réalisme et la finition étaient du côté de Limonest. Et très sincèrement, quand vous prenez un but à la 2e minute et que vous en prenez un second avant la mi-temps, avec un pénalty un peu généreux, 3-0 à la mi-temps, ça fait mal aux tripes. Mais bon, les joueurs et Bruno en tant que coach sont revenus avec de bonnes intentions. On a pu revenir au score. Et après, manquait, à mon avis, un peu de physique. Et on a lâché un petit peu prise sur la fin du match. Mais le score est sévère, comme on a tendance à dire. Mais la prestation était plutôt de qualité. Plutôt de qualité, donc plutôt intéressant.
Et on va un petit peu parler des jeunes. C'est redevenu le pivot du développement de votre club depuis quelques temps.
Oui, en effet. C'est-à-dire qu'il y avait une déficience de formation, tant au niveau des éducateurs qu'au niveau de l'effectif jeune. Donc on a priorisé depuis 2 ans la reconstruction de la formation, puisqu'on a triplé le nombre d'éducateurs diplômés sur le pôle formation. On commence à avoir des prémices d'intérêt, puisque vous savez, on a un partenariat avec la Saint-Étienne, et depuis 2 ans, on a 2 voire 3 jeunes qui se présentent dans les tests de sélection du centre de formation. Donc on sent des prémices d'une réussite par la formation. Il est clair que avant que ces jeunes viennent bonifier des équipes ligues en compétition 15, 17, 19, on n'est pas encore tout à fait là. Il faudra encore 3-4 ans avant de bâtir quelque chose de serein. C'est bien évident, mais c'est le choix qui a été fait par les dirigeants, construire, bâtir, par les fondations, puisque, vous savez, les moyens financiers deviennent de plus en plus restreints, et les ambitions des équipes fagnons passent néanmoins par des budgets, on va pas dire pharaoniques, mais au point de vue amateur, qui sont très importants, trop importants.
Et à Feur, on nourrit quelques ambitions. Un peu plus au sud, celles de Louis Nicolin sont toujours intactes, mais le plus lyonnais des Montpelliérains est sorti de ses gonds cette semaine. Et pendant ce temps-là, son cher club est aux portes de la zone rouge au classement de la Ligue 1. Ce n'est pas le triplé de Casimir Ningak ce week-end à Dijon. 3 buts partout entre Montpellier et Dijon qui va dérider Louis Nicolin. Après 7 matchs sans victoire, Montpellier est 17e au classement. Que se passe-t-il à la paillade en ce moment, Eric Cognier ?
Eh bien, écoutez, de ce qu'on peut voir sur la presse écrite ou télévisuelle, c'est une équipe qui doute, qui a pourtant de la qualité, qui se crée des occasions, qui a un potentiel offensif intéressant, mais il se fait coincer sur des bévues, des fautes d'inattention, et ça c'est paradoxal pour une équipe de Ligue 1, donc ça montre nécessairement une certaine nervosité, une certaine pression, qui pour certains joueurs expérimentés est difficile à suivre. Mais il y a de la qualité, il y a de la qualité à Montpellier, je suis pas inquiet, et puis je connais un petit peu l'entraîneur Hans, qui a fait de très très bonnes choses, il me semble tout à fait adapté à relever cette situation.
Alors, cette mauvaise série, on est sûr d'une chose à Montpellier, c'est que c'est pas lié à un problème de poids, c'est plutôt lié au doute, hein, parce que Hans a mis le holà très vite. Au début de la saison, il a mis un barème d'amende à la reprise, 1 euro par gramme en trop. Résultat, aucun joueur n'était en surpoids à la reprise avant la première journée de Ligue 1. Malheureusement, ça ne suffit pas pour faire des performances.
Mais bon, je pense que c'est peut-être un jeu ou une règle du jeu entre ces joueurs et lui. Ça fait partie des règles de fonctionnement, mais en tant que professionnel, je pense pas qu'il y a besoin de pénaliser par de l'argent pour atteindre des objectifs physiques. Même si bon, certains joueurs du championnat de Ligue 1 auraient peut-être besoin de ce petit challenge.
Daniel Congré s'est blessé à la Mosson contre Metz lors de la 7e journée, défaite 1-0. Il souffre d'une grosse élongation et selon Frédéric Hans, il sera absent durant un mois. C'est un coup dur pour Montpellier.
Ah oui, c'est certain. Congré est un joueur remarqué, remarquable. À mon avis, est un leader. Donc, dans une équipe qui doute, si vous n'avez pas de leader, ou si vos leaders font faute, ça peut être préjudiciable. Donc, par les temps qui courent, ce joueur me semble indispensable.
Frédéric Hans doit composer en plus avec les moyens, on peut le dire, un peu extensibles du club de la Paillade. Cette saison, Montpellier n'a recruté que 3 joueurs. Le Belge Anthony Vandenborre, Yacouba Silla et Stéphane Sessegnon. Parmi eux, un seul est défenseur, c'est le premier, le Belge Vandenborre. Faut-il se poser des questions quant à la cohérence du recrutement ?
Alors, le recrutement est toujours basé sur des moyens financiers, d'une part, une analyse du groupe et les postes à pourvoir. Montpellier est une équipe de formation. Je ne connais pas exactement les niveaux d'évolution des centres de formation, mais à ma mémoire, c'est un très bon centre de formation. Donc je pense qu'ils se basent un peu sur leurs jeunes. Sont-ils prêts à accéder à la Ligue 1? Je ne suis pas sûr. Après, ben écoutez, on verra. Mais peut-être que Louis Nicolas nous réserve des surprises. Incessamment se peut. Je pense que Louis Nicolas est loin d'avoir donné sa dernière carte.
Ouais, surtout qu'en plus, par rapport à la question que j'ai posée juste avant, lui, Louis Nicolas, il a la réponse. Après la défaite contre Metz, et il est sorti de ses gonds une première fois. C'était lors de la présentation officielle de l'équipe au Mas Saint-Gabriel. Accrochez-vous. Hein. Ça fait 3 ans que je réclame un grand défenseur. 3 ans. Ils sont incapables d'en trouver un. Louis Nicolas pointe ici du doigt donc le travail de Bruno Carotti, un ancien défenseur. L'ancien parisien est en ligne de mire. Puis, il en a remis une couche, Loulou. Ce sont des comiques, je cite. Il faut les virer avant la fin de l'année. Il y a une bande de clowns dans ses bureaux. Ça fait peur. Je n'aime pas les incompétents et qui sont grassement payés. Louis Nicolas vient de remporter le premier round. C'est pas terminé. Mais première question déjà, pourquoi ne passe-t-il pas à l'acte en virant Bruno Carotti et les autres personnes concernées? Parce que manifestement, ils sont plusieurs. Hein.
Alors là, je ne connais pas les incidences qu'il pourrait y avoir en interne, mais nécessairement, je dirais qu'il y a des gens qui sont chargés du recrutement. Donc il y a des demandes qui doivent être faites par le staff technique et les recruteurs sont là pour amener les bons éléments. Après, il y a une notion financière qui rentre en ligne de compte, bien évidemment. Alors, est-ce que Louis Nicolas a mis des limites ou non en la matière? Bien difficile de dire. Je pense que oui, parce que bon, un club aussi paternaliste que Montpellier, il doit y avoir des limites financières à ne pas dépasser. La preuve, quand on dit que ces gens sont grassement payés, ça veut dire que Louis Nicolas fait parler, je dirais, son expérience d'entrepreneur. Voilà, on cherche le bon rapport qualité-prix. Force est de constater qu'ils ne l'ont pas trouvé, mais aujourd'hui...
Puis c'est de quoi il parle, Louis Nicolas, il y a mis ses sous quand même.
Ah ben, bien évidemment, et je pense que cette attitude est remarquée et remarquable. Et d'ailleurs, personne s'offusque de ce genre de démarche de la part d'un président.
Second round à présent, Louis-Nicolas a envoyé une nouvelle praline ce week-end contre la cellule de recrutement. C'était avant le match face à Dijon au micro de nos confrères de beIN Sport. Écoutez, c'est sucré, elle est savoureuse la praline.
Il y a des choses qui me déplaisent. J'ai des gens qui font le recrutement qui sont des grosses bites. Je m'excuse de parler comme ça, mais c'est vrai. Ça fait 3 ans que je leur clame de trouver un défenseur central et ils ne l'ont toujours pas trouvé. Donc il va falloir un peu remanier tout ça.
Mais jusqu'où ça va aller ?
Ah ben là, je dirais c'est savoureux. C'est vraiment limite au niveau des propos, mais c'est savoureux quand on connaît le personnage. Et ça fait plaisir aussi de voir des gens qui vivent les instants présents comme ils le ressentent. Des fois, c'est trop calculé, trop calculateur. Donc là, on peut dire que vraiment, ça vient du fond du cœur.
Pour revenir au sportif, on parlait de l'arrivée de Cessegnon tout à l'heure. Il a joué au Mans, au Paris Saint-Germain. Il est le capitaine de la sélection béninoise. Que peut-il concrètement apporter à cette équipe à 32 ans ?
Alors, très sincèrement, c'est vrai qu'il est sorti des radars médiatiques. C'était un très bon joueur. Je pense que Paris ne s'en plaignait pas. Est-il capable d'apporter ce savoir-faire Ligue 1, voire international ? J'espère pour lui. Est-il pas trop vieux ? Est-il encore capable de mobiliser d'autres joueurs autour de lui à travers un projet ? Je ne connais pas assez la personnalité du joueur pour m'aventurer sur ce sujet. Est-il leader ? L'avenir le dira, mais bon, Montpellier a peut-être besoin de joueurs expérimentés qui, dans le vestiaire, sont capables peut-être de mobiliser les plus jeunes.
On voit cette année aussi du côté de Montpellier qui a les sorties de Loulou Nicolin, mais ça on en a l'habitude, mais il y a aussi sur le terrain, il y a certains comportements qui sont un peu bizarres. Montpellier n'a plus gagné depuis 7 matchs, on le rappelle, et il y a un certain Geoffrey Jourdraine qui pète souvent des câbles, notamment après la déroute subie face à l'OL 5 buts à 1, il est venu faire un petit peu la provocation, il est venu faire son malin, alors que Corentin Tolisso était tranquillement en train de remplir ses obligations médiatiques. Il a littéralement interrompu l'interview, Geoffrey Jourdraine, c'est pas professionnel.
Oui, bah écoutez, je pense que ce gardien de but a été formé à Montpellier, donc a passé de nombreuses années, a été international. Je pense qu'il connaît bien le football de haut niveau. Il doit y avoir en coulisses, à mon avis, des choses qui sont pas très carrées. Et donc, nécessairement, à un moment donné, les gens un peu, comment je dirais, bruts, au premier abord, ne se préoccupent pas de l'entourage et interviennent quand bon leur semble. C'est un peu à l'image de Nicolas. Jourdraine est un peu dans ce type-là. C'est un joueur qui vit ses matchs complètement, on le voit dans les buts. Il s'en prend à ses défenseurs, il n'aime pas l'injustice. Donc je pense que c'est un joueur plein d'intérêt dans des situations aussi difficiles que ça. Il faut monter au créneau.
Et comment Montpellier peut se redresser ?
Moi je pense qu'ils ont le potentiel, ils ont l'effectif. Ils ont un éducateur capable de les mener à la baguette. Après, est-ce que tous les éléments sont réunis ? Le financier, l'état d'esprit, la volonté d'avancer ? Là, c'est une autre question. Là, on parle après du staff, des dirigeants. On peut se poser la même question d'ailleurs avec la Saint-Etienne.
Et les Montpelliérains l'ont vu ce week-end. Dijon n'est pas une équipe facile à manœuvrer. Le promu est 15e, mais la SS, justement, on va en reparler, a intérêt à se méfier. Il est 20h57, la trêve internationale va faire du bien à Christophe Galtier et à ses troupes. Pour la réception de Dijon, le 17 octobre, l'entraîneur stéphanois devrait récupérer certains joueurs, peut-être pas tous. Hein. On pense peut-être à Kevin Théophile-Catherine, Pierre-Yves Poloma qui ont recommencé à courir du côté de l'Etra. Le match contre Dijon, c'est un match piège.
Ah, certainement, on pourrait presque parler de derby, parce que Dijon est un club qui est monté en puissance à la dernière décennie en essayant sa position en Ligue 2 de façon héroïque, en Coupe de France. Je pense que c'est loin de... il faut vraiment les prendre pas à la légère, à mon avis, parce que ils ont des joueurs expérimentés, des purs travailleurs de Ligue 1, et quand on voit le potentiel offensif qu'ils ont mis en place contre Lyon notamment. Ils sont capables de marquer à tout moment. À nous, à rester très très sérieux. Je pense que ce sera un match un peu bridé. Je pense, très sincèrement. À voir.
On l'a vu en 2012.
Ils viendront à Saint-Etienne pour gagner.
On l'a vu en 2012 lors de la seule confrontation entre Dijon et Saint-Etienne où c'était un match un peu bizarre. Et on avait vu Pierre-Emerick Aubameyang créer des brèches. Et c'est lui d'ailleurs qui avait marqué en 2012 à Geoffroy Guichard. Avec tous ses rushs, on les garde tous en mémoire. Il avait mis vraiment la pagaille dans la défense adverse. Fragile, Dijon l'est toujours, 4 ans plus tard. C'est la 18e défense de Ligue 1. C'est au vert d'en profiter, comme jamais.
En effet, alors reste à voir quelle est la philosophie de cette équipe. On serait censé dire 18e défense de Ligue 1, mais quel classement en attaque? Est-ce que la méthode, c'est pas de dire on marque un but de plus que son adversaire direct? Ça fait plaisir. Et ça fait plaisir de voir ça au chaudron.
Faut-il changer les plans? Est-ce que Christophe Galtier doit mettre deux attaquants carrément?
Ah ben, il est clair que face à une équipe comme Dijon, il faut faire douter très vite. Et puis avoir des capacités de blocage assez haut. Est-ce qu'on est capable de le faire aujourd'hui? Je m'interroge. Mais même sur le papier, ça peut paraître comme si, et sur le terrain, ça peut être autrement.
C'est déjà la fin de cette émission. Merci Eric Cognet d'avoir accepté notre invitation. La musique revient tout de suite sur RVR avec In The Mood For Jazz. Nous, on se retrouve demain à 7h. On se réveille en musique sur RVR en direct. La semaine prochaine, pour parler des Verts. Salut à tous. Bonsoir Eric.
Bonsoir à tous. Merci.